Bonjour et bienvenue dans notre podcast Feel Good at Work proposé par Attitte Consulting. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au télétravail et à son rôle dans l'accroissement des comportements addictifs des salariés. Une étude réalisée lors du premier confinement révèle en effet que toutes les addictions ont augmenté en télétravail. 5,5 millions de Français ont augmenté leur consommation d'alcool, 19% ont mangé avec excès plus que d'habitude, 27% des fumeurs ont augmenté leur consommation de tabac, et plus d'un Français sur deux a augmenté son temps d'utilisation des écrans. Le télétravail étant encore en pratique, comment prévenir ces conduites addictives? Comment identifier les facteurs déclenchants? C'est ce que nous allons demander à Emmanuel Auger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en psychologie du sport et formateur addictologue et ancien rugbyman également. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une addiction exactement? Et doit-on utiliser d'emblée ce mot qui peut parfois effrayer ou préférer un autre terme?
C'est l'addiction, c'est la seule définition valable pour expliquer et signifier la relation qu'on peut avoir avec un produit et les difficultés qu'on peut avoir. Donc l'addiction, c'est véritablement la maladie de la perte du contrôle. Je perds le contrôle sur mes consommations, sur mon comportement. Je sais que c'est néfaste pour ma santé, je sais que ça a des impacts sociaux, etc. Mais malgré tout, je ne peux pas contrôler cette consommation ni l'arrêter. Et donc effectivement, au terme socio-médical, l'addiction est la seule valable. On va parler aussi de conduite à risque, qui est un spectre plus large, parce qu'en effet, du moment où on consomme des produits psychotropes, c'est bien de reconnaître le plaisir procuré par ces produits, mais c'est également nécessaire d'avoir le recul suffisant pour reconnaître les dangers auxquels on s'expose en consommant ces produits. Des dangers judiciaires, des dangers sociaux, psychologiques, etc. Donc en effet, l'addiction est une réalité, mais le spectre est beaucoup plus large et on va parler de conduite à risque parce qu'on est tous exposés à ces problématiques-là.
Alors, quelles sont les principales conduites à risque? Généralement, on parle beaucoup du tabac, de l'alcool, des médicaments, des jeux. On parle aussi d'achats compulsifs parfois.
Oui, on dénombre deux grandes familles. Il y a deux grandes familles, à la fois les addictions avec produits, c'est-à-dire ce que je vais consommer, et qui vont les produits psychotropes, les substances psychoactives qui vont avoir un effet, soit de plaisir. Donc c'est essentiel aussi de prendre du plaisir. L'être humain cherche sans arrêt du plaisir, qui vont soulager une douleur, qui vont soulager un mal-être. Donc c'est la fonction du produit. Et pareil pour la deuxième famille qui va entre les addictions comportementales. Et là, il peut y avoir les activités physiques et sportives, il peut y avoir les achats compulsifs, la sexualité, les jeux, qui procurent également du plaisir ou qui permettent de soulager un mal-être. Et donc, ce qui est essentiel dans les conduites à risque et en addictologie, c'est de réfléchir et d'interroger la relation que j'ai au produit. À quoi ça me sert et qu'est-ce que ça me procure?
Alors j'imagine qu'en tant que professionnel, vous avez dû voir augmenter ces conduites addictives pendant le télétravail. On parlait de l'étude, des chiffres avec cette étude, mais vous aussi, vous avez dû le constater.
Oui, en effet, ce que je vous soulignais au début, c'est que c'est la maladie de la perte du contrôle et la maladie de l'isolement également, et avec cette perte de lien social. Je m'enferme sur moi-même et le télétravail a accentué, le premier confinement et avec la généralisation du télétravail, a accentué ces phénomènes-là. Je suis seul chez moi, je n'ai plus de contrôle social. Le travail, malgré tout, donne un cadre social, c'est socialisant, même si parfois, c'est pas marrant d'aller tout le temps travailler, on préfère être en vacances, mais malgré tout, on se socialise avec ses collègues, avec ses partenaires, avec ses clients, etc. Et là, tout d'un coup, au-delà de l'effet de sidération dû au confinement, le télétravail accentue cet effet d'isolement casse ce cadre social. Et donc du coup je me retrouve seul chez moi à pouvoir faire ce que je veux quasiment. Il y a ce sentiment aussi d'être le moins performant qu'au travail. J'ai plus le contrôle de ma hiérarchie, j'ai plus le contrôle de mes collègues et effectivement je vais avoir tendance peut-être à avoir des conduites à risque exacerbées.
Et est-ce que je peux en faire plus aussi en travail parce que justement j'ai plus le contrôle et est-ce que le travail ne peut pas devenir une addiction?
Bien sûr, on parle de workaholisme, donc excusez-moi pour l'accent anglais. Effectivement, la limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle, elle est complètement brouillée. Quand je vais au travail, j'ai une amplitude horaire à respecter. Une fois que théoriquement, je quitte mon travail, je devrais switcher dans ma vie privée. Et puis là, je suis complètement brouillé, je me lève, j'ai l'accès à mon écran en permanence. Donc déjà, il y a cette problématique liée à l'écran. Et puis, je peux faire des pauses à peu près quand je veux, revenir, consommer aussi. Il n'y a plus de contrôle social. C'est-à-dire que si sur mon lieu de travail, théoriquement, à part les pauses cigarettes, le produit socialement admis, le reste, bien évidemment, est proscrit. Donc là, effectivement, à la maison, je peux faire un peu ce que je veux. J'ai l'accès au produit qui est facile. J'organise mon temps de travail comme je veux. Et à la fois, la souplesse que peut donner le télétravail, chez certaines personnes, ça peut être anxiogène parce qu'effectivement, plus de lien social, plus de contrôle social, ce sentiment de performance qui est un peu atténué. Et puis parfois aussi, on peut noter chez certains, comment l'expliquer, que la hiérarchie va mettre en doute un peu ma compétence. C'est-à-dire qu'elle va mettre en doute si effectivement je travaille comme il faut, si je respecte les horaires, si le travail est bien fait, puisque j'ai plus de contrôle dessus.
Et ce stress va
Ce
aussi,
stress,
va
voilà,
pousser à
ça va
ça.
augmenter de
À
l'anxiété et du
quel
stress.
moment on peut se dire, je suis addict et il faut que je réagisse? Parce qu'on est beaucoup dans le déni quand même.
On est dans le déni parce que c'est une maladie. Alors, c'est pas une maladie comme les autres. Je parlais de la maladie de la perte du contrôle et de l'isolement. Effectivement, c'est très stigmatisant puisque, notamment sur les deux grands produits légaux, qu'est-ce que sont le tabac et l'alcool hyper consommés, qui sont des produits socialisants également. Être addict, ce mot dont on parlait au début, qui est assez stigmatisant, je vais être dans le déni, donc je vais me replier. C'est très compliqué de reconnaître à partir de quel moment je vais être addict, puisque vous disiez très justement, je suis dans le déni. Il y a toujours plus. Ah, mais tu verrais mon collègue ou tu verrais mon ami, il consomme plus que moi c'est rien. Je gère, ça va, je m'en sors. Effectivement, à quel moment on s'en rend compte? C'est
Le
souvent
signal
l'entourage.
d'alarme?
C'est souvent l'entourage, le signal d'alarme.
D'accord.
Ça va être souvent l'entourage qui va dire, ben là, ta consommation, elle commence à m'inquiéter, ou on commence à essuyer des remarques. Peut-être que ma performance au travail va être moindre. Peut-être que les impacts sur ma famille, sur mes horaires, sur mon hygiène, sur plein de choses comme ça, vont commencer. C'est des petits faisceaux. Mais moi, perso, je n'ai pas le recul nécessaire pour me dire, tiens, je commence à partir, à glisser.
Alors, quelles sont les clés pour éviter de glisser un peu plus, de pouvoir s'arrêter à temps, de pouvoir justement prévenir un peu ces conduites à risque? Est-ce qu'on peut faire plus de relaxation, de respiration, d'activité physique? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour justement essayer de cadrer ou d'arrêter ces conduites?
Ça va être de pouvoir en parler déjà, de connaître les données. Déjà, c'est bien de savoir que ça existe, de connaître les mécanismes, de se dire, ben, je suis pas seul, ça peut arriver. Connaître les conditions dans lesquelles ça peut arriver, effectivement, c'est seul, je suis pas un extraterrestre, je suis seul à la maison, je galère, c'est dur, il y a X facteurs qui font que je suis en difficulté. Et à qui je peux en parler. Et effectivement, le rôle des entreprises aussi, il est d'offrir ces espaces de parole aux salariés, de se dire, ben, ça peut arriver. Ok, ça peut avoir un impact sur votre travail. Et la première crainte et le déni, c'est quel impact ça va avoir sur mon travail. Si je perds mon emploi, j'ai plus de raisons de rien dire et d'essayer de passer entre les gouttes que d'aller dire, je suis en difficulté et ça va impacter mon travail. Et donc, comment on peut aussi sensibiliser l'ensemble du système et de l'organisation à dire, ben, ça peut arriver. On a des salariés qui sont sous pression, il y a des salariés, il y a X facteurs qui font qu'à un moment donné, ça peut glisser. Moi, ensuite, en tant que salarié en difficulté, et notamment en télétravail, ça va être essayer de garder la routine, la même routine que je peux avoir au travail. Se lever, prendre son petit-déj, se préparer, attaquer son horaire de travail comme si j'étais au bureau, et se donner des règles. On parle de droit à la déconnexion, c'est-à-dire que quand je suis au travail, que je rentre chez moi, j'ai droit de déconnecter, et c'est exactement pareil, je dois observer, essayer d'observer les mêmes règles à la maison. Ce droit à la déconnexion est important en télétravail, et vraiment garder ce cadre, cette routine, cette rigueur de travail, d'hygiène, d'alimentation qui va être importante. Et puis vous parliez effectivement de tous ces petits outils, en tout
Ouais.
cas plaisirs, qui sont essentiels.
Et
Ça
qui
va
peuvent
être
compenser
qui
justement
vont être ouais,
le
qui vont
manque
permettre aussi
de voilà.
de alors faire face au stress, le sport, la méditation, le yoga, enfin, toutes les activités culturelles, ludiques, sportives qui sont essentielles et ne pas les perdre. Alors, c'est compliqué à la maison, on n'a pas envie de sortir, on est au chaud, on est dans l'hiver et effectivement, c'est aussi s'astreindre à cette rigueur-là et mais se donner ces temps-là, s'autoriser aussi ces temps-là d'aller faire de l'activité sportive qui est essentielle pour le bien-être psychologique et physique, sur la santé, ouais. Bien
Compenser
évidemment.
un plaisir qui pourrait mener à l'addiction par un plaisir qui ne
Bien sûr,
mènera pas à l'addiction, qui
bien sûr,
justement en
ben,
plus fera du bien au corps.
clairement, c'est une problématique de gestion émotionnelle. Tout simplement, ce que vous disiez, on compense. Parfois un mal-être ou quelque chose qui coince en termes d'émotion. Donc je vais être sur mon smartphone, au moins ça m'évite de penser à autre chose. Je repousse à demain. Je vais consommer plus de cigarettes, plus de tabac, plus de médicaments, au moins ben, je pense à autre chose. En tout cas, ça m'aide à passer ces moments-là compliqués. Et effectivement, ben, le sport ou d'autres activités, mais voilà, en tant qu'ancien sportif, effectivement, il y a tout un tas d'activités qui permettent de reprendre le contrôle sur ses émotions, de reprendre le contrôle sur son corps et d'apprécier, d'être dans le moment présent et mais de plus avoir besoin de substituts pour faire face aux événements que la vie nous oppose. Donc, non, c'est essentiel.
Emmanuel Auger, merci beaucoup.
Merci beaucoup.